avec des traces de doigts sur le cou. Il commanda un autre verre. L'argent qu'il avait pris à Danny Lange lui fondait entre les mains. Il avait oublié de s'en débarrasser. Il irait le déposer avant de rentrer chez lui ce soir. Moins d'une heure plus tard, il fut rejoint par un habitué. Un ancien lieutenant nommé Victor Merrett, un flic à l'ancienne, un vieux de la vieille, un vétéran. Il s'assit avec Frank, ils discutèrent un moment de tout et de rien, puis Merrett mentionna le père de Frank. « Je dois être honnête avec toi, Frank, » commença Merrett, « et je ne veux pas manquer de respect à sa mémoire, mais je n'ai jamais vu les choses du même œil que ton père. Eh bien, Victor, je peux te dire que ce que les gens voyaient est ce qu'il était vraiment. Bon sang, ne nous engageons pas sur ce terrain. Comprends-moi bien, Frank. Je ne dis pas que ce n'était pas un bon flic. Il était excellent. » Parrish sourit d'un air ironique. Vous palpiez, Victor? Vous palpiez ici?
Palpez quoi?
Tu sais, est-ce que l'équipe de mon père vous payait? Merrett fronça les sourcils.
Pourquoi tu me demandes ça, Frank? C'est quoi cette question?
Une question directe, Victor. Une putain de question directe. Tu ne peux pas répondre à une question directe.
Tu es sous, Frank. Bon sang, j'ai ici pour être sociable, pour dire bonjour. Et tu m'emmerdes avec ces conneries. C'est quoi ton problème?
J'ai aucun problème, Victor. Mais il y a un paquet d'autres gens qui en ont un, et je me demandais simplement si tu en faisais partie. Merrett se leva. Il baissa les yeux vers Frank et secoua la tête.
Je crois que tu ferais mieux de rentrer chez toi, dit-il. Tu ferais mieux d'aller te coucher.
Parrish se pencha en avant et souleva son verre.
Eh bien, avant que tu t'en ailles, Victor, laisse-moi te dire une chose sur mon père. Les seules personnes avec qui il était d'accord étaient celles qui acceptaient son argent, celles qu'il avait dans sa poche, pas vrai? Si tu n'étais pas de son côté, alors tu étais un ennemi.
Mais c'est ma réputation. Réputation bidon, Victor! John Parrish était un véritable escroc. C'est un fait. Merrett sembla alarmé.
Je ne crois pas que ce soit le genre de choses qu'il faille crier sur tous les toits, surtout dans ton état.
Pourquoi? Pourquoi je pourrais pas dire ce qui me chante?
C'est la vérité, Victor, la putain de vérité. C'est un baratineur comme tous les autres. Il n'a jamais rien fait à part s'en mettre plein les fouilles pendant toute sa carrière. Et ne viens pas me dire que personne n'était au courant. Tu me convaincras jamais que ses supérieurs ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais ils ont laissé couler, Victor. Ils ont toléré parce qu'ils leur ramenaient assez de petits truands pour leur faire plaisir. Voilà ce qu'ils faisaient. Et même ces types, ceux qui leur amenaient, ce n'est pas lui qui les arrêtait, Victor. Ce n'est pas lui qui faisait le boulot. Ces types lui étaient apportés sur un plateau par la mafia. Et ses supérieurs étaient contents, et les mafieux étaient contents, et tout le monde se donnait des putains de tapes dans le dos et rentrait à la maison avec les poches pleines. C'était comme ça, Victor. Et ça sera toujours comme ça.
Bon Dieu, Frank, je ne t'ai jamais entendu parler comme ça. Qu'est-ce qui te prend?
Parrish sourit d'un air ravi. Il était saoul et il n'en avait rien à foutre.
« Thérapie !» dit-il. « Je suis en thérapie !»« Eh bien, Frank, je me dois de te dire ici même que ce serait sans doute une bonne idée de changer de thérapeute. On dirait que celui que tu vois ne te fait pas beaucoup de bien. »
Merrett commença à se diriger vers la porte.
« Tu pars ?» demanda Parrish. « Faut que j'y aille, Frank, oui. »« Eh ben, il me semble que le moins que tu pourrais faire, ce serait me payer un putain de verre avant de partir. »
Merrett resta un moment immobile, les yeux baissés vers Frank Parrish.
« Je crois que tu as déjà assez bu, » dit-il doucement, et il tourna les talons et s'éloigna.
Chapitre 22. Dimanche 7 septembre 2008. Frank Parrish se réveilla tard dimanche matin. Il ne se rappelait pas grand-chose de la nuit précédente. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait une conserve de chili con carne à moitié ouverte. Il n'était pas allé jusqu'à en vider le contenu dans une casserole pour le réchauffer. Il prépara du café, resta un moment assis dans la cuisine à regarder d'un air absent par la fenêtre. Il songea à appeler Caitlin, décida de ne pas le faire. Il envisagea de demander à Radic d'aller voir comment elle se portait. Il pensa aux filles mortes, et lorsqu'il se représentait leur visage, tout ce qu'il voyait c'était leur naïveté, leur vulnérabilité, la totale absurdité de leur mort. Caitlin n'était pas beaucoup plus vieille qu'elle. Elle allait seule au travail, rentrait parfois tard le soir en pleine nuit. Quelle distance y avait-il entre elle et une benne à ordures? Pas loin pour être honnête. Et s'agissait-il toujours d'opportunistes? Était-ce toujours le fruit du hasard? Quand ces types attrapaient des filles en pleine rue, les utilisaient pour faire ce que bon leur semblait, puis s'en débarrassaient? Parrish ne le croyait pas. Il était persuadé que les dossiers dans son tiroir n'étaient ni de simples fugues, ni de simples meurtres. Outre Karen et Rebecca, si ne serait-ce qu'une seule d'entre elles avait été adoptée et était passée par l'agence d'adoption du comté ou par les services pour l'enfance, alors il suivrait cette piste. Il n'en parlerait à personne. Il emploierait ses propres énergies, ses propres contacts, ses propres ressources. Et si ça ne donnait rien, alors ça ne coûterait rien à personne. Mais c'était aujourd'hui dimanche, et il n'irait pas au bureau. Il irait voir Robert, peut-être Kathleen, et il essaierait de passer la soirée sans bouteille de Bushmills. Ses chances de réussite étaient minces, mais il tenterait le coup. Il prit le trajet le plus direct jusqu'à son ancien domicile, là où vivaient les fantômes amers de son mariage, s'arrêtant en chemin pour passer quelques minutes à l'église Saint-Michel. Il ne parla à personne, longea simplement l'allée centrale, déposa le reste de l'argent de Danny Lange dans le tronc et repartit. Lorsqu'il arriva devant la maison où il avait passé une si grande partie de sa vie, il marqua une pause sur le trottoir et hésita avant de gravir les marches et de cogner à la porte.
Kane Salmin, furent les premiers mots de son ex-femme. Salut Claire, comment vas-tu? Quoi de neuf? Tu sais quoi, ça doit faire près de 3 semaines que je ne t'ai pas vu, et toi tu as sacrément bonne mine Claire, même si ça me fait mal de le dire. Tu es très sexy, va te faire foutre Frank.
Parrish sourit. Il redescendit les marches et se tint sur le trottoir. Il enfonça les mains dans les poches de son pardessus et regarda sur la gauche.
« Tu vas me proposer d'entrer, dit-il, ou tu vas rester planté là pendant que j'entrerai de toute manière ?»«
Qu'est-ce que tu veux, Frank ?»«
Je suis venu voir Robert. Il n'est pas ici. Tu sais où il est ? Il est parti pour la journée. Il a une petite amie maintenant. Mais tu ne risques pas de le savoir, vu que tu te contrefous de ce qui lui arrive, pas vrai ?»
Frank ne mordit pas à l'hameçon. « Donc il n'est pas ici, reprit-elle, et je ne sais pas pour combien de temps il est parti, mais quand il reviendra, pour autant qu'il revienne, je lui dirai que tu es passé le voir, ok ?»
C'est très gentil de ta part, Claire.
Je sais. Elle claqua la porte, et Frank Parrish resta planté sur place jusqu'à ce que le bruit des pas de Claire ait disparu. C'était toujours la même rengaine, la même agressivité, et la même amertume épuisante. Il ne comprenait pas pourquoi elle s'y accrochait avec une telle férocité. Franchement, après tout ce temps, ils auraient dû pouvoir discuter sans cette tension, cette colère, ce mélodrame. Frank Parrish marcha jusqu'à la station de métro. Aujourd'hui, les choses ne se passaient pas comme prévu. Une heure plus tard, il se tenait devant l'appartement de Kathleen, frappant pour la troisième fois. Elle n'était pas là. Il l'avait bien compris, mais n'avait nulle part où aller et rien d'autre à faire. Il attendit patiemment, imbécile qu'il était, et frappa une fois de plus. Finalement, il s'avoua vaincu. Il arriva chez lui en milieu d'après-midi. Il appela Eve et tomba directement sur son répondeur. Elle était avec un client, ou sortie, ou peut-être qu'elle était allée rendre visite à sa mère hors de la ville. La mère d'Eve croyait que sa fille était directrice des ressources humaines chez Hewlett-Packard. Elle continuerait de le croire jusqu'à sa mort. Personne ne saurait jamais si elle soupçonnait que sa fille n'avait pas vraiment la tête de l'emploi, et si tel était le cas, ça ne serait jamais plus qu'un soupçon. Il y avait des choses qu'il valait mieux ne pas savoir, même quand on les savait. Frank Parrish alluma la télé et resta patiemment assis pendant un quart d'heure. Puis il craqua. Il renfila son manteau, quitta son appartement et prit le chemin de Clay's. Au moins, il y aurait du monde là-bas. Au moins, il y aurait Tom Waits sur le jukebox. Au moins, il y aurait une bouteille de Bushmills et un verre propre, et personne pour l'en empêcher.
Chapitre 23. Lundi 8 septembre 2008. C'est juste une impression, rien de plus.
Vous ne faites pas confiance à vos impressions. En tant que flic, pas vraiment.